Vous êtes à l'écoute de la voix de la Russie au micro Victor Yeysève. Les sculptures qui parlent de Tilda Lovi, la poésie de l'argile, l'éloquence de la pierre, les œuvres du sculpteur français Tilda Lovi provoquent la sensation d'être en parfaite union avec l'éternité, avec tout ce qu'il y a de plus poétique et mystérieux. C'est la nature et la culture de la Bretagne qui a marqué la sculpture de Tilda. Artiste organique, Tilda est très proche de tout ce qui est organique, la pierre, la matière. Elle est convaincue que l'on porte en nous la mémoire de ce qui a été, de ce qui était à l'origine du monde. Cette mémoire se révèle dans l'art. Jusque 15 décembre, l'Institut français de Moscou expose des sculptures, des photosculptures et des peintures de Tilda Lovi. Nous avons eu la chance de rencontrer Tilda, qui nous a fait part de sa vision du monde, incarnée dans les formes qu'elle crée, de ses sentiments vis-à-vis de sa patrie, la Bretagne, et de ceux qui rapprochent les Bretons et les Russes.
Qui m'inspire, disons que je retourne à mes racines. Je me suis aperçue que c'était mes racines qui m'inspiraient. J'ai des racines bretonnes qui sont liées à la pierre. Et comme je suis sculpteur et que la pierre est vraiment mon... La pierre et la terre sont mes éléments vraiment de base, principaux. J'ai un arrière-grand-père qui breton qui était tailleur de pierre, qui avait sa carrière de granit. Moi, je suis née en Bretagne. Toute mon enfance, j'ai passé en Bretagne. Après, je suis allée à Paris et je retourne régulièrement en Bretagne. Et il y a quelques années, je me suis aperçue que mes sculptures avaient un lien vraiment direct avec la Bretagne en y retournant. Et pas simplement mes sculptures, mes peintures et ma pensée étaient très très liées à la mystique que dégagent les paysages. Il y a une atmosphère très particulière en Bretagne. Au bord, tout au bord de l'océan. Quand je dis je marche sur le fond de l'océan, c'est une expression, bien sûr une métaphore, mais pas autant que ça, parce que on marche vraiment. On est le fond de l'océan, c'est là sous nos pieds, même physiquement, géographiquement, si on peut dire. Moi, je m'inspire de cette pensée parce que déjà l'image, enfin la vision du reflux. La vision de la marée basse, c'est un paysage dont je ne me lasse pas. Enfin, j'adore la marée basse, plus que l'eau. L'eau, l'immensité de l'eau, oui, parce que c'est sans fin, c'est un horizon sans fin. Mais le monde dans lequel j'entre quand je marche à marée basse en Bretagne, entre les pierres, et que je commence à rentrer dans ce monde sous-marin qui est sous mes pieds, alors là, c'est aussi immense et je vois beaucoup de choses.
Et vous créez dans votre studio ou bien à l'extérieur?
Les deux, je crée là où je me trouve. Parce que c'est dans la tête que les choses se passent. Et souvent, moi je vois des choses qui restent dans mon esprit et elles ressortent ensuite en sculpture ou en peinture ou en photo de mes sculptures. Mais c'est pas tout de suite, ça vient après quand ça a mûri dans la tête.
Il y a beaucoup de totems dans votre collection. Ça vient aussi de la culture bretonne.
En fait, j'ai créé mon propre panthéon. Dans cette atmosphère mystique, je me suis rendu compte aussi que les sculptures que je faisais étaient liées aussi quelque part par les formes. Par exemple, j'ai des sculptures qui rappellent, enfin pour moi, peut-être que les autres ne le voient pas, mais moi je le vois clairement, la forme d'église, d'architecture d'église bretonne du 9e, 10e siècle. Des chapelles qui ont été construites tout au bord de l'océan pour les marins, pour que les femmes des marins puissent aller sur... Et souvent, il y a des églises dont même l'intérieur rappelle une cale de bateau renversé, par exemple. Et l'extérieur rappelle aussi quelque part un bateau, sans doute. Et tout ça, c'est fondu en les pensées, les visions, la recherche de la forme. Tout ça, ça se forme un tout qui s'est fondu et qui a donné ce panthéon, parce que j'ai toujours été très intéressée par la mythologie. Donc je me suis fait mon propre panthéon.
Vos sculptures sont faites de quoi?
Alors il y a plusieurs matières. Comme je vous ai dit, moi les matières qui sont pour moi très importantes sont l'argile, c'est-à-dire la terre, le limon dont on est fait, et l'argile qui est une matière de base vraiment très importante. Donc le modelage pour moi est une manière de rajouter et d'enlever de la matière. Et une matière qui n'est pas du tout meuble, qui est la pierre. La pierre, mais la pierre est aussi un moyen de trouver une place dans l'espace, puisque quand vous sculptez la pierre, vous enlevez de la matière. C'est comme si vous enleviez un peu d'espace pour trouver la place. Là, vous formiez une forme dans l'espace, en fait. À force de travailler toutes ces matières, j'ai travaillé le bois aussi, toutes les matières que travaille un sculpteur, j'ai eu envie un jour de fabriquer ma propre matière. Et cette matière, je l'ai appelée beau béton. Je l'ai appelée beau béton parce que j'ai fait un béton. Pour chaque sculpture, la composition est différente. Dans la composition de ce béton, entre des pierres nobles, comme du marbre, du granit, même des pierres semi-précieuses. Bon, donc chaque sculpture possède en soi déjà tout le passé de cette pierre. Le bronze, mais ça c'est normal, on fait toujours des bronzes, mais j'aime beaucoup le bronze. Et je dis ça parce que les patines que vous voyez sur les sculptures en bronze viennent de moi, c'est pas moi qui les ai faites physiquement, parce que c'est un ouvrier patineur qui les fait, mais on travaille ensemble. Je dis exactement ce que je veux comme couleur, et je dis ça parce que pour moi la patine est aussi très importante, et c'est moi qui patine les sculptures en terre cuite. D'ailleurs, la composition de la terre cuite, je l'ai aussi moi-même travaillée et composée en collaboration avec un fabricant de terre à Paris, le dernier, je pense, qui existe à Paris, un des plus anciens. Et c'est vraiment très, très agréable. Donc la patine, je la fais moi-même aussi. Maintenant, j'ai des sculptures. Les sculptures que vous voyez là, ici à l'exposition, sont des sculptures en terre cuite, en grès d'Irak, ce que j'ai appelé le grès d'Irak, et avec un mélange d'argile et de grès, et patinées par moi-même. Ce sont tous des exemplaires uniques, parce que des pièces d'origine. Et j'ai aussi une pièce que j'ai mise ici, qui est en terre crue, parce que j'aime beaucoup la terre crue, et je me suis aperçue que là, c'est une terre russe, une argile, ce qu'on appelle l'argile verte de Leningrad, que j'aime beaucoup. C'est la terre à sculpter. En général, les sculpteurs s'en servent juste pour faire modèle, et ensuite ils tirent des pièces de ça. Ils gardent pas même l'original, et moi je garde justement cette pièce originale. Je ne vais pas la cuire. Je pense que la sculpture, l'argile, c'est comme les pièces qu'on retrouve d'argile qui était en terre crue, qui même préhistorique, hein, on en retrouve, précolombienne, etc. Je pense que l'argile porte en soi aussi tout notre passé d'être humain.
Et là, à Moscou, vous avez un atelier, si j'ai bien compris, où vous travaillez avec les enfants.
J'appelle pas ça un atelier, j'appelle un studio, parce que comme je suis un peu itinérante, je suis devenue itinérante, je travaille dans différents endroits, mais ce studio d'art contemporain, il existe depuis très longtemps en fait. Je l'ai fondé en 2006, ici à Moscou d'ailleurs, ce qui est étrange, mais c'était une coïncidence. C'est-à-dire, je passe une partie de l'année à Moscou, où j'enseigne, où je crée des projets avec des enfants, et une partie en France aussi, où je travaille aussi avec des enfants. Je travaille aussi avec des adultes, parce qu'on m'a demandé, j'aime bien aussi, mais c'est pas pareil. L'enfant n'a pas de barrière, comme il n'a pas de barrière linguistique, parce que chez nous c'est international, il y a des enfants de toutes les nationalités, il n'a pas de barrière non plus par rapport à l'expression. Comme a dit si merveilleusement Picasso, j'ai mis 4 ans pour apprendre à dessiner et à peindre comme Raphaël, mais on n'a pas assez de toute une vie pour peindre comme un enfant. Que je suis absolument d'accord avec ça. Et avec les enfants, je travaille en 2 dimensions et en 3 dimensions.
Est-ce que vous voyez la similitude entre la Bretagne et la Russie ?
Ah oui, c'est étrange, mais c'est peut-être pas étrange d'ailleurs, parce que les Russes adorent la Bretagne et la Bretagne adore les Russes. Il y a une compatibilité de caractère, la manière d'être des Bretons, l'amour de la nature, possibilité, la faculté qu'ont les Russes de rentrer en soi-même, et comme une forme de méditation. On peut dire qu'ils sont des gens qui me disent « Oh, ils sont taciturnes comme les Bretons ». Je dis « Non, c'est pas ça, c'est un besoin de rentrer en soi, l'excessif aussi, les Bretons sont très excessifs, mais pas dans l'expression extérieure, parce que les Russes sont très retenus extérieurement, mais excessifs à l'intérieur, ça boue.
Vous avez écouté La Voix de la Russie avec Victor et Isève.